Et appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. C'est la libre antenne jusqu'à 10h heure de Paris, 9h temps universel. Vous commentez l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Tous les sujets nous intéressent. Aucun sujet n'est tabou. Donc vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Les réseaux sociaux évidemment et notamment la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Nicole nous a contacté, elle souhaite revenir sur un sujet que nous venons d'aborder à l'instant dans le journal d'Amélie Tullet, les 40 ans de la Marche Verte. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Alors, je rappelle qu'il y a 40 ans, 350 000 Marocains, appuyés par des milliers de soldats, entamaient leur marche verte pour récupérer le Sahara occidental, qui était à l'époque une colonie espagnole. Cette marche a accéléré le départ de l'Espagne, mais vous, comme plusieurs associations de soutien au Sahraoui, vous dénoncez 40 ans d'occupation coloniale par le Maroc.
Absolument, oui, parce que cette marche verte, comme vous l'avez souligné, était en fait une façade, pacifique, une opération de com' en vérité, qui cachait effectivement le fait qu'il y avait les troupes marocaines qui étaient massées à la frontière et qui pénétraient déjà dans le territoire pour faire pression sur l'Espagne, pour qu'elle se retire. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à aucun moment... évidemment, la population, le peuple du Sahara occidental, le peuple sahraoui n'avait été consulté sur cette arrivée du Maroc et que donc les populations civiles qui étaient au Sahara occidental à ce moment-là ont fui devant l'arrivée de ces troupes qui n'étaient pas du tout amicales, qui étaient hostiles. Hein. Il faut bien savoir qu'on a retrouvé des fosses communes datant de cette période fin 75, début 76, avec beaucoup de morts, qu'il y a eu des bombardements au napalm et au phosphore blanc, comme ça se faisait à l'époque au Vietnam, contre les populations civiles qui s'étaient retirées vers l'Est, qui allaient vers l'Est, mais qui n'étaient pas encore en Algérie, et devant ces massacres, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les populations civiles ont été accueillies du côté de Tindouf en Algérie pour pouvoir se réfugier.
Alors vous parlez d'occupation coloniale. Il y a tout juste un an, à l'occasion du 39e anniversaire de l'invasion du Sahara, le roi Mohamed VI déclarait que ce conflit du Sahara occidental ne relevait pas d'une question de décolonisation. Non, le Maroc, dans son Sahara, n'a jamais été une puissance d'occupation ou une puissance administrative, disait-il. Ça fait des années qu'on parle d'un référendum d'autodétermination, c'est-à-dire de demander à la population de choisir. Selon vous, pourquoi ça traîne ?
Eh bien, parce que la communauté internationale ne s'est pas donné les moyens, malheureusement, de faire respecter ce qui est son propre droit, puisque en fait, depuis toujours, depuis 65, le Sahara occidental est déclaré comme territoire non autonome, et comme territoire non autonome, c'est spécifiquement ces territoires non autonomes dont le peuple a le droit à s'autodéterminer, à disposer de lui-même. Donc ça, c'est dans la Charte des Nations Unies, et c'est toujours à l'ordre du jour, et jamais ça n'a été retiré par la communauté internationale de ces textes. Et le Maroc n'est absolument pas considéré, évidemment, comme souverain sur ce territoire. Il n'est même pas considéré comme puissance administrante, parce que s'il était considéré comme puissance administrante, il devrait rendre des comptes à l'ONU sur sa gestion du territoire. Donc, on ne sait pas ce qu'il est. C'est un ectoplasme, mais malheureusement, tout le monde s'en... Comment dire ? Non pas s'en contente, c'est pas exactement le mot, mais on laisse.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a
cette... Enfin, vous dites que tout le monde s'en contente. L'ONU a nommé plusieurs émissaires. Hein. Ils sont allés plusieurs fois sur place, mais aussi en Algérie, en Espagne, en France, pour essayer effectivement de débloquer la situation. En tout cas, le roi est attendu aujourd'hui à La Hayoune, la plus grande ville du Sahara occidental, à l'occasion du 40e anniversaire anniversaire de la Marche Verte. Nicole, merci de nous avoir interpellé sur cette actualité. Nicole, donc, de Paris, 33 9 693 693 70. On va s'intéresser maintenant au Congo-Brazzaville, où l'opposition, vous le savez, ne reconnaît toujours pas le référendum constitutionnel du 25 octobre. Je vous rappelle que plus de 93% des électeurs ont approuvé ce projet de nouvelle constitution qui permet au président Denis Sassou Nguesso de se représenter l'année prochaine. Bonjour Alphonse.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes assez déçu tout de même par l'attitude, la réaction de l'opposition congolaise.
Oui Juan, on a l'impression que l'opposition réagit par à-coup, c'est-à-dire qu'au lieu d'être offensive, elle est plutôt défensive. On vous dit, elle vous prend un communiqué à 13h et à 14h, elle le dément. Il y a tellement de cacophonie et cela prouve qu'il manque un peu de leadership au sein de cette plateforme de l'opposition dite radicale. Mmh. Cela, à mon humble avis, doit décevoir beaucoup de militants de cette opposition qui avait quand même réussi à mobiliser assez de monde, mais elle n'a pas su donc capitaliser cela en victoire politique parce qu'elle nous disait que le 20 octobre, le président Sassou ne serait plus là au pouvoir et qu'il n'y aurait pas de référendum le 25 octobre 2005. Donc le constat est là, il n'y a pas deux mots pour dire que franchement c'est un échec. Ouais. Et alors elle devrait repenser sa stratégie.
C'est vrai qu'on on a du mal à comprendre la stratégie de l'opposition puisque elle a appelé à boycotter le référendum, donc elle a appelé à la désobéissance civile. Une fois que les résultats ont été publiés, elle a dit eh bien nous allons poursuivre la désobéissance civile. D'ailleurs nous allons organiser tous les lundis, les jeudis et les vendredis des journées ville morte. Finalement deux jours plus tard elle fait marche arrière. Lundi, il y a effectivement ce communiqué de l'opposition qui annonce la suspension des actions de désobéissance civile. Deux jours plus tard, revirement à nouveau, l'opposition dit on va continuer la désobéissance civile, ça reste d'actualité. Et voilà. Et maintenant, elles se disent prêtes au dialogue politique. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que de vouloir dialoguer avec le pouvoir.
Bon, ils disent qu'ils vont dialoguer avec le pouvoir, mais pourvu que le projet de constitution, le projet de la nouvelle constitution ne soit pas reconnu. Bon, là, on craint que demain, ils nous disent encore autre chose. Vous voyez donc qu'il y a pédalage et retro-pédalage, si bien que pour la plupart des militants de cette opposition avec lesquels on est en contact, on ne comprend pas cette cacophonie, le manque de leadership et surtout le fait pour cette opposition de toujours miser sur l'international. Oui. Alors dans ces conditions, je pense que l'opposition, à mon humble avis, devrait repenser sa stratégie politique au risque de se discréditer complètement aux yeux de l'opinion nationale et parfois même internationale.
Ce que demande l'opposition, c'est un nouveau référendum organisé cette fois-ci sous l'égide de la communauté internationale, que ce soit l'Union africaine, l'ONU ou l'Union européenne. Peu importe, disait ce matin un des représentants de l'opposition sur notre antenne. En tout cas, Abdoulaye Batili, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, est attendu aujourd'hui à Brazzaville et il rencontrera évidemment les différentes parties et il tentera à ce moment-là d'entamer une médiation. Merci à vous, bonne journée à Brazza. Mamim Soa est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors vous êtes malgache, vous nous appelez de Sao Tomé et Principe. Vous avez entendu cette semaine sur notre antenne la publication d'un rapport de l'ONU qui nous apprend que toutes les 10 minutes naît quelque part dans le monde un enfant sans nationalité. On estime que près de 10 millions de personnes dans le monde sont apatrides, c'est-à-dire sans papier, sans nationalité, à cause des déplacements de population ou des systèmes juridiques qui rendent parfois difficile l'octroi d'une nationalité. Et vous, en tant que malgache, vous souhaitiez intervenir dans la libre antenne pour dire que dans votre pays, à Madagascar, ce phénomène des apatrides était une réalité.
Oui, c'est une réalité, notamment pour les descendants de Comoriens, de Chinois, d'Indiens, de Grecs, de Métis, qui sont à Madagascar depuis 2, 3, voire 4 générations, sinon plus, mais qui n'ont pas accès à la nationalité malgache. Donc, ils ne peuvent pas se voir délivrer un certificat de nationalité malgache.
Ouais. C'est le code de nationalité qui interdit de donner la nationalité à un enfant si ce n'est pas son père qui lui transmet la nationalité, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. En fait, ces malgaches-là, parce que ce sont de facto des malgaches, se retrouvent dans une situation d'apatride en raison du code de la nationalité malgache. C'est un code qui est assez restrictif, qui stipule que la nationalité se transmet par le père. Et au cas où la mère malgache a un enfant d'un étranger, elle ne peut pas transmettre sa nationalité à cet enfant. Donc,
comme les pères, les grands-pères, les arrière-grands-pères, eux n'avaient pas la nationalité malgache, forcément, le petit enfant indien ou chinois qui naît en ce moment à Madagascar n'aura pas la nationalité malgache.
Voilà, c'est ça. Donc il pourra éventuellement avoir une carte d'identité nationale en payant des sous-mains, comme cela a été indiqué dans votre reportage.
Ah oui, le reportage de Marie Audran. Reportage de Marie Audran, diffusé effectivement hier ou avant-hier sur notre antenne, que je conseille à tous ceux qui s'intéressent à cette question d'écouter. Vous allez sur le site internet d'RFI et vous le retrouverez sans aucun problème. Poursuivez, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Oui, en fait, ce qui est en jeu ici, c'est la diversité de la nation malgache. Il y a vraiment matière à réviser ce code de la nationalité. Il a été révisé en 2004, mais cela n'a pas été fait dans un sens, disons, moins discriminatoire, bien au contraire, puisque on continue toujours avec la clause qui stipule que la nationalité se transmet par le père. Et donc, on n'a pas résolu le problème. Et il faudrait, en fait, que ce code de la nationalité ne discrimine pas les personnes sur la base du genre, parce que c'est ce que les Nations Unies demandent pour mettre fin à la situation des apatrides. Il faudrait qu'il embrasse toutes les composantes de la nation malgache.
Ouais, et de nombreuses ONG sur place à Madagascar plaident pour un nouveau code de la nationalité. Et on entendait très bien dans ce reportage de Marie Audran, notre correspondante sur place, que cette population apatride vivait dans la peur et qu'elle vivait cachée et qu'il fallait donc changer leur situation. Merci beaucoup, Mamie Soa, de nous avoir appelé de Sao Tomé et Principe, où on écoute RFI sur les 102.8 FM. C'est la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. On va intéressé au crash aérien survenu samedi dernier dans le Sinaï. S'agit-il d'un accident ou d'un attentat? Vous savez que dans les heures qui ont suivi, la branche égyptienne de l'Organisation de l'État islamique a affirmé sur Twitter qu'elle avait fait tomber l'avion sans donner plus de détails. Achille, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Londres et vous avez l'impression, en suivant cette actualité, que l'Égypte veut cacher la vérité.
Absolument, parce que la communication qui se fait autour de cette affaire devient de plus en plus inquiétante, surtout pour des personnes qui utilisent l'avion tout le temps et surtout pour ces familles qui ont perdu les leurs et pour qui j'ai eu une pensée pieuse en ce jour. Et mieux, je crois il y a des déclarations de part et d'autre de plusieurs puissances européennes, la CIA et même les services de sécurité en Grande-Bretagne invoquent la piste d'une bombe. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Les Russes communiquent très peu là-dessus pour des raisons évidentes. Mais ce qui est là, ce qui est préoccupant pour des usagers d'avions que moi je suis, c'est qu'on a des satellites qui observent la Terre 24 heures sur 24. À quoi servent ces satellites? C'est tout comme ce qui s'est passé le 8 mars 2014 avec la compagnie malaisienne dont l'appareil a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, les familles ne peuvent pas faire le deuil.
Vous avez compris, Achille, la décision prise cette semaine par David Cameron, donc le Premier ministre britannique, de suspendre tous les vols entre Sharm el-Sheikh, d'où avait décollé cet Airbus russe, et le Royaume-Uni, même si depuis il est revenu sur cette décision. Mais lorsque cette annonce avait été faite à l'époque, il y a 2-3 jours, David Cameron a été quand même assez critiqué sur place. Il ne faisait pas l'unanimité.
Oui, mais ce que les gens oublient, c'est que dans les mentalités britanniques ici, l'attentat de Sousse en Tunisie cette année est encore très frais. L'attentat est encore très frais. C'est les Britanniques, c'est la Grande-Bretagne qui a perdu une grande partie de ses touristes. Et Sharm el-Sheikh, comme vous le savez, c'est une zone touristique. Et s'il y a eu déjà ce précédent, on ne sait même pas si c'est une bombe qui a été introduite dans l'avion à partir de l'aéroport de Sharm el-Sheikh, je crois qu'il est normal que des décisions rigoureuses soient prises pour que les autorités égyptiennes communiquent mieux et qu'ils nous rassurent qu'il n'y a pas eu de bombe, qu'ils ont mis en place la sécurité qui est requise pour que les gens puissent être protégés. Quoi.
C'est vrai que pour l'Égypte, si toutefois la piste de l'attentat se confirme, l'impact sera dévastateur pour le tourisme. Il y a peut-être effectivement, comme vous dites, Achille, une volonté d'essayer, dans un premier temps, de cacher la vérité, de ne pas dire clairement les choses. En tout cas, sur le terrain, il y a quand même des inspecteurs français, allemands, donc ce sera compliqué quand même pour l'Égypte de cacher la vérité. Merci à vous, Achille, et je précise quand même que le gouvernement britannique a autorisé la reprise des vols aujourd'hui entre Sharm el-Sheikh et le Royaume-Uni. 20 000 touristes britanniques sont présents à Sharm el-Sheikh dans cette station balnéaire qu'il faut donc rapatrier vers le Royaume-Uni, et le Royaume-Uni a obtenu des mesures de sécurité supplémentaires de la part des autorités égyptiennes pour effectuer donc tous ces vols. Merci à vous, Achille, bonne journée à Londres. Rémi, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Bangui et vous nous interpellez, vous, sur l'insécurité dans votre pays, la Centrafrique. D'ailleurs, cette semaine, une centaine de parlementaires ont manifesté dans la capitale pour dénoncer les récentes violences. Ces parlementaires ont même demandé au gouvernement de réarmer le plus rapidement possible les FACA, les forces armées centrafricaines. Et vous, vous êtes en colère parce que vous dites que cette marche, c'est de la poudre aux yeux.
Ah oui, Juan, c'est de la poudre aux yeux. Du moment où les parlementaires qui étaient dans leur hémicycle, le premier ministre était devant eux, il a déclaré même devant eux qu'il est dépassé de la situation. Ils n'ont même pas osé demander, déposer une motion de censure pour la décision de ce premier ministre-là, qui est incapable avec son gouvernement complet. Et aujourd'hui, ces parlementaires-là, les moyens, les pouvoirs qu'ils ont mis à leur disposition, ils ne peuvent pas utiliser dans leur hémicycle. Et puis, ils sortent pour nous chanter, pour dire que voilà, on demande le réarmement des FACA. Tout ça, je dis, c'est de la politique. Ils veulent juste nous mettre dans la merde et puis c'est tout.
Ouais. Et alors, vous critiquez les parlementaires centrafricain. Lundi, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a quand même haussé le ton, puisqu'elle s'en est pris à la MINUSCA, au casque bleu déployé sur le terrain. Elle a déploré que leur intervention ne permettait pas encore d'enrayer les violences. Qui est responsable de ces violences? Est-ce que ce sont les casques bleus qui sont incapables de gérer la situation? Est-ce que c'est le gouvernement? Quelle est votre analyse à vous, Rémi, vous qui êtes sur place?
Oui, mon analyse, c'est que le gouvernement est incapable de faire face à la situation actuelle. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, la déclaration de la présidente, vous allez voir, c'est pas pour la première fois qu'elle a fait ce genre de déclaration. La fois dernière, elle a parlé du désarmement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de désarmement. Ouais. Aujourd'hui, elle veut juste calmer la situation parce que c'est ce que la population réclame.
Oui,
désarmement
et puis
des FACA, désarmement des...
Et puis il y a aussi la pression de la communauté internationale, notamment de la France, qui veut à tout prix que des élections soient organisées d'ici la fin de l'année pour mettre fin à la transition et remettre en place une nouvelle constitution. Stéphane nous appelle également de Bangui. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Nous vous écoutons sur la situation en Centrafrique.
Ouais, justement à la suite de Rémi. Je dirais d'abord, permettez-moi, Juan, d'exprimer ma colère par rapport à la situation sécuritaire en République centrafricaine. Je voudrais vous dire que le constat est totalement alarmant à partir du moment où les autorités actuelles de la transition ont démontré à suffisance leur incapacité à pouvoir à la sécurité sur toute l'étendue du territoire centrafricain. J'aimerais rappeler les récents événements malheureux que les centrafricains ont connus au niveau de Kina, au niveau de Fatima, au niveau de Lapouanga, etc., avec plus de 100 et quelques maisons brûlées, des centrafricains sans abri. Alors face à cette situation, moi je pense, comme Rémi l'a si bien dit, il faut obligatoirement réarmer les FACA et les faire greffer parmi les forces internationales pour qu'ils puissent sécuriser le pays.
Ouais, réarmer donc les forces armées de la République centrafricaine qui, disons-le, sont mises sur la touche depuis le renversement du président François Bozizé. Voilà, des FACA qu'on accuse d'être, de ne pas être forcément très professionnels. professionnel, d'être inefficace aussi, de ne pas faire le maximum et de ne pas avoir fait le maximum pour garantir la sécurité. La situation, on en reparlera évidemment en Centrafrique dans les prochains jours. Lundi, débat sur le Sénégal. Est-il